Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui avec Vivien Féasson. Vivien, ça va la pêche?
Ça va.
Auteur de Libreté, de Perdu sous la pluie, on ne te présente plus, tu es une star et aujourd'hui tu viens nous présenter un supplément qui s'appelle Méca Libreté.
Alors le vrai nom, c'est le nom de travail, c'est le truc qui me permet de dire aux gens de deviner immédiatement de quoi ça parle. Le vrai nom c'est De Bile et d'Acier.
De Bile et d'Acier,
en tout cas
bien,
pour l'instant okay. C'est le titre
officiel. En compagnie de Valentin T, Valentin du Vola à la pêche.
Ça va super, je suis très heureux, j'ai envie de tester ce jeu, j'adore les mécas, j'adore Libreté, j'adore Vivien, donc je suis très content.
En compagnie de Maxime Victor.
Eh ben bonjour, moi je trouve que ce podcast, c'est un podcast spécial pour les baleines, vu la gravité des voix jusqu'ici, c'est merveilleux je trouve.
Bonjour.
Voilà, et bonjour. En compagnie de Natacha Forel.
Salut, moi c'est Natacha.
nous sommes inclusifs pour les dauphins aussi.
Très bien, Natacha Forel est avec nous également, merci. À vous tous de tester donc mes calibretés, de quoi qu'il s'agit. Vivien, fais un son. Vivien. Vivien, gâteau dans la bouche.
Il est en train de manger.
Oh mon Dieu.
Laisse-le, il fait à son rythme.
C'est l'heure du goûter.
Oh, je prends de l'énergie pour le podcast.
Okay, hein. Très bien.
Alors, de quoi ça parle? En gros, c'est difficile de dire que c'est vraiment le futur du jeu, mais dans un futur.
Le futur de la fiction.
Voilà. Ouais, non, c'est le futur du jeu avec un J majuscule, tu vois. Ouais, c'est ouais. Un peu
perdu au jeu.
En 2035, on se dira oui. Avant, il y avait des choses, et puis il y a eu Libreté.
Il y a eu Méca Libreté.
C'est le futur du jeu de rôle, en fait. Ouais, d'accord. Très
en
bien,
tout
donc...
cas, il faut imaginer un futur assez proche dans lequel tout d'un coup des failles se sont ouvertes dans notre monde. Voilà, pas dans un monde parallèle, dans notre monde. Et au début, des petites créatures sont sorties de façon assez brève, ont emporté des personnes surgissant de nulle part au milieu des villes et des choses comme ça. Et puis au fur et à mesure, elles sont devenues de plus en plus nombreuses. Elles sont venues avec une pluie qu'on a pris au début pour une pluie toxique due à la pollution. Et puis on s'est rendu compte que c'était quelque chose de différent. Puis sont arrivés les géants. Et là, les humains ont compris que leur jour était compté, quoi. Mmh. Et face à ça, donc, les gouvernements sont plus ou moins organisés tant bien que mal. Et certains ont fini par créer ce qu'on appelle le corps de défense, qui est une espèce d'organisation supranationale, en fait, chargée d'étudier justement l'envahisseur et de comprendre ses méthodes. Et quelques-uns de corps de défense, plutôt, on va dire, que les d'autres organismes privés et autres laboratoires et autres sociétés, on va dire, capitalistes, a trouvé le moyen de lutter contre les géants en créant justement des espèces de robots géants, en fait.
Des mécas, l'Evangélion, quoi.
Voilà,
là, les sources d'inspiration, on les voit tout de suite. Hein,
ah bah putain, Evangélion, de toute façon, là,
direct.
Si je disais que c'est pas lié, franchement...
Peut-être Attack on Titan.
Ouais, Pacific Rim, surtout. Aussi.
Et Pacific Rim. Attack on Titan,
vraiment.
honnêtement, Attack on Titan, j'y pense beaucoup pour la version OSR de Perdu sous la pluie et à d'autres trucs, mais pas pour celui-là.
Pas pour celui-là, ouais. D'accord. Okay, très bien. Très bien.
Et donc voilà. Et les pilotes ne le savent pas forcément, les joueurs le savent. Hein, c'est pas un gros secret. Mais en fait, ces géants sont en fait des, enfin ces robots sont en fait des cadavres justement de géants de bile noire retravaillés et réanimés par les pilotes, parce que ceux qui ont joué à Perdu sous la pluie ou Libreté savent que la bile noire, c'est quelque chose que, en fait, c'était pas dans Perdu sous la pluie. Donc ceux qui ont joué à Libreté savent que donc la bile noire a un lien avec les enfants. Et en fait, les géants de bile noire, on a découvert en tout cas que les sirènes ou les géants de bile noire réagissaient à la présence des enfants, même quand ils étaient morts. Et donc ils utilisent du coup des enfants pour piloter ces robots, parce que seuls les enfants sont capables de faire réagir la bile noire.
Ouais,
sur le mec, il allait y avoir un truc dans ce genre-là. Ouais.
Voilà. Et pour que les enfants fassent réagir la bile noire, il faut qu'ils soient malheureux.
Oh non,
ça commence bien.
Voilà.
Oh non, c'est pas possible.
Donc
t'es pire qu'Evangélion, quoi.
Bah non, parce que du coup c'est exactement ça dans Evangélion, finalement.
Ah ouais, tu trouves?
Ouais, un petit peu.
Dans Evangélion, j'ai l'impression qu'ils pilotent des mécas et ils sont malheureux.
Et ils sont malheureux.
Là c'est ils doivent être malheureux, tu vois, c'est presque.
Donc dans Evangélion, ils sont tous malheureux parce que de toute façon ils ont tous perdu leur mère, parce que ça tombe bien, on a mis leur mère dans un méca, enfin c'est plus ou moins un truc comme
oh,
ça,
c'est
quoi. Donc.
C'est
mais voilà, donc, okay. Mais faut pas les rendre trop malheureux, parce qu'on fout quand même des enfants aux commandes d'un robot géant, donc s'il décide de vous tuer,
ouais, il faut pas qu'il
a les moyens.
Suicidaire non plus, quoi.
Voilà, c'est ça.
Ah, c'est tellement cynique. Oui, ok. Ah, quelle horreur. Natacha, tu es toujours sûre de vouloir jouer à mes calibretés?
Et donc on joue ces adolescents qui donc sont complètement dévorés par les problèmes, le drama, etc. Il y a des archétypes, justement, je peux vous donner les noms. La souffrance, la monstre. la monstruosité, l'arrogance, l'obéissance, et il y a la destinée aussi.
D'accord.
Notamment, et le talent. Lui, c'est celui à qui
tu réussis. Tu inclus le chocolat et les couettes et c'est... les mouchoirs dans la préparation ou...
Est-ce qu'il y a une safe room?
Mais non, car ce jeu ne contient aucun matériel.
Aucun matériel. Trigger warning, je ne sais plus comment ça s'appelle. Référence à un jeu qu'on a testé cette année. Ok, d'accord, très bien. As-tu, au niveau du fonctionnement du système de jeu général, c'est un jeu de rôle traditionnel?
Alors, c'est comme Libreté, c'est-à-dire qu'il y a un meneur de jeu.
Ouais.
Toujours appelé l'adversaire, comme dans le jeu de base. Il y a des joueurs. Donc là-dessus, on est très proche d'Apocalypse.
Je rappelle qu'on n'a jamais testé Libreté dans les micros de la cellule.
On a fait des versions.
On a fait un playtest. Il y a eu un playtest.
Il y avait eu un playtest à une convention où tu étais.
Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a jamais testé vraiment en one shot le jeu lui-même, tu vois. On a toujours testé en périphérie.
Pas avec toi, en tout cas, ça c'est sûr, effectivement.
Donc c'est intéressant quand même de revenir un petit peu sur les mécaniques, je pense.
C'est une bonne occasion, la sortie d'un potentiel d'un supplément, effectivement. Voilà.
Exactement. Donc, il y a l'adversaire qui est le meneur de jeu, on va dire.
Et je me suis astreint en fait à modifier vraiment pas trop le système de jeu. Parce que c'est un supplément, c'est pas un nouveau jeu, donc ça veut dire qu'il y a les mêmes enfantillages à quelques modifications de quelques points de détail près. J'ai rajouté une petite dose stratégique, mais vraiment très légère. Dans Libreté, il y a des avantages et désavantages. Là, il y a un double avantage et double désavantage possible, quoi. Voilà, c'est à peu près ça.
Okay. Sinon, l'ajout principal, c'est surtout l'univers et sa couleur.
Voilà, comme on reste dans du jeu Apocalypse World, c'est-à-dire l'enjeu quand on jette les dés, c'est pas de savoir si stratégiquement on est plus balèze que le robot en face, si on a bien placé, etc. C'est qu'est-ce qui va se passer et comment c'est intéressant pour la suite.
Le principe est donc toujours le truc, c'est que selon les scènes comment elles sont jouées, on peut prendre de la bile noire autant qu'on veut.
Exactement.
En gros, si on en accumule trop, on doit faire un test pour résister à la pourriture.
Voilà.
Mais qu'à côté de ça, la bile noire, c'est vachement bien parce que quand on fait un test, on peut l'ajouter à nos jets de dés, mais il faut la parier en avance.
Voilà.
Et que l'objectif, c'est de faire une réussite entre 7 et 9, ça fait une très bonne réussite, et que au-delà, sur du 10+, ça fait une super réussite, mais qui a des conséquences négatives.
Donc c'est une espèce d'équilibrage de la mort à trouver, ça doit être.
Ce qui est le truc important de Libreté, la sur-réussite, en fait, c'est que quand tu mets trop de billes pour réussir, vu que tu mets de la bile, en fait, le message de Libreté, c'est que quand un enfant met de l'énergie, il se contrôle pas non plus, et il peut aller trop loin, en fait.
D'accord.
Et quand il y a des
s'il en met pas, il rate.
D'ailleurs, il y a des grosses scènes, je me rappelle dans Évangélion, dans lesquelles quand les protagonistes mettent tout ce qu'ils ont, ils pètent un câble et ils font des carnages, quoi.
Ouais.
C'est ça.
Ouais, c'est intéressant. Du coup, tu trouvais pourquoi, enfin, juste petite question avant, mais on en parlera probablement pendant le débrief, mais tu trouvais que Libreté, en termes de système et de mécanique, s'adaptait assez bien, enfin, qu'il y avait un côté.
À partir du moment où on adopte une approche plus narrative, on va dire, et moins stratégique, assez.
D'accord, ouais. Okay,
et après, j'ai ajouté quelque chose que j'ai tiré, en fait, notamment des théories, en fait. C'est un peu lié au jeu en performance, mais on va dire des théories de génie bidet, du bloc de bidet sur le...
Je ne suis pas MJ, mais...
Voilà, sur le principe de jouer en... Comment elle appelait ça déjà ? Jouer au service d'eux. C'est-à-dire l'idée, c'est que... en fait, le problème de Libreté, c'est que c'est fait pour des gamins, quand ils se tabassent, ça dure pas longtemps. Il y en a un qui va mettre une droite à l'autre gosse et l'autre gosse va se retrouver au tapis à se tenir la joue ou s'enfuir, enfin bref, va pas y avoir un combat comme on voit dans les trucs d'action avec des esquives, des parades et tout. Ouais. Quand on commence à rentrer dans du robot géant, ça pose un souci parce que quand même le robot géant, on n'est pas dans le truc où le méchant te met une droite et tu restes à terre en pleurant, quoi.
Ouais,
c'est quand même pas l'esthétique. L'idée, c'était de pas par contre le système bug si on commence à faire un jet de dés toutes les 5 minutes, quoi. Enfin, le jeu c'est pas qu'il bug, mais c'est pas intéressant. Le jeu rend pas ça intéressant. Donc l'idée, c'est vraiment de décrire un maximum les actions jusqu'à ce qu'on arrive à une espèce de climax un peu important. Et là, on fait le jet de dés.
D'accord.
Qui a des conséquences importantes. Éventuellement, on reprend. On va peut-être faire 2-3 jets de dés grand maximum, mais faut pas que ça aille plus loin pour un combat, même entre robots géants. D'accord. Et l'idée, pour que ce soit intéressant, je parlais du coup du jeu en service et je parlerai aussi de World Wrestling.
D'accord. Oui, World Wrestling. C'est ridicule. Mais c'est le jeu de catch.
Voilà, le jeu de catch qui est un principe de, il y a un joueur qui va avoir en quelque sorte la main. Et donc, on va considérer que toutes ces actions, c'est lui qui a plus ou moins la main sur le combat, et les autres, en fait, vont décrire comment leurs personnages réagissent à ces attaques, etc. Mais juste pour le fun, quoi.
D'accord, ouais.
Et à un moment, peut-être qu'il va y avoir un retournement, mais voilà, il y a ce personnage, ce joueur-là, ce personnage-là qui est en contrôle sur le combat jusqu'à ce qu'on arrive. Ça permet en fait des descriptions un petit peu, comment dire, fluides théoriquement. Alors ça, c'est la théorie. Maintenant, j'ai essayé une fois en pratique, ça marche bien, mais l'hypothèse de travail, c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut faire des combats intéressants avec des échanges verbaux entre personnes à partir du moment où on a à peu près établi comment ça fonctionnait, quoi.
Valentin puis Natacha.
Il y a un truc que je trouve très intéressant dans cette manière de jouer, c'est que on va au cours de la description du combat délimiter les enjeux qui sont au cœur du combat en fait. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en jeu et qu'est-ce qu'on est prêt à perdre et qu'est-ce qu'on cherche en fait. Mm. Donc cette phase de négociation verbale est une phase de négociation et puis de clarification des enjeux.
Ouais.
Et ensuite le jet de dés, une fois que les enjeux sont clairs,
valide.
Est une validation ou une délimitation de calais, tranche, voilà plutôt. Donc je trouve ça vraiment très très intéressant, enfin, en tout cas pour la tester, j'adore.
Natacha.
Juste quand tu parles d'échanges verbaux, on parle bien des échanges autour de la table entre joueurs, pas des échanges entre personnages.
Oui, tout à fait.
J'allais te poser
la question. Pardon. Oui.
Parce que c'est vrai que sinon, ça, dans un cadre shonen, les échanges verbaux.
C'est exactement ce à quoi je pensais.
Ouais.
Alors après, on pourrait, mais c'est pas de l'optique dans laquelle c'était forcément fait, quoi.
Du coup, il y a une espèce de système où chaque scène est quand même avec le point of view de quelqu'un. Genre quand on lance la scène de combat, c'est plutôt on est dans le point of view de machin.
Je pense que c'est moins une question de point of view que de. En fait, c'est pour faciliter l'acceptation de jouer un personnage qui se prend des taquets et de jouer le fait de prendre des taquets, quoi.
Ouais, le jouer impact aussi.
Voilà, on a établi que machin était celui qui était, on va dire, en avantage à ce moment-là.
Et il n'y a pas d'enjeu de type, il faut absolument que mon mecha revienne de manière rutilante. On est d'accord sur le fait que, ouais, on se prendra quelques taquets, mais c'est pas grave, on pourra quand même combattre après. Il n'y a pas d'enjeu ludiste de conserver son mecha, quoi.
Non, c'est ça.
C'est
et
juste
puis,
cool de décrire des super combats géants entre robots
géants
et
mais... Pour moi, on peut. Tu peux te faire défoncer ton mecha. Alors peut-être pas au premier scénar, si tu faisais une chronique ce serait peut-être un peu violent, mais imaginons au troisième scénar tu te fais péter ton méca, tu vas faire des scènes après justement avec le fait que ton pilote il est mis sur la touche, il voit les autres se bastonner, il s'engueule avec la direction, enfin, des trucs comme ça, quoi.
Ouais, j'ai bien l'idée. Joue aussi le tout ce qui est autour en fait.
Ouais, carrément.
Ce qui est présent aussi dans tous ces shonen, tous ces seinen ou mangas qui parlent justement de combats de mecha avec des enfants, etc. Ok, très bien. Bah, c'est parti, vous jouez.
Dernier truc. Juste pour dire, donc là, ce qu'on va faire, c'est un kit de démo. Qui serait inclus en fait, qui sera inclus théoriquement dans le supplément. C'est le supplément, comme dans Libreté, vous propose de créer votre propre base avec un questionnaire.
D'accord.
Sauf que là, j'ai inclus directement dedans, tout comme quand j'avais créé Fleur du Mol pour Libreté, un cadre préconstruit avec potentiellement des prétirés qu'on peut vouloir utiliser et une situation qui est jouable en une soirée pour ceux qui ont envie de tester le jeu sans pour autant se lancer dans une création et tout ça. Donc là, ça se passe au Tatarstan. dans la base de Kazan, c'est une équipe en fait de pilotes féminins.
Ça c'est le setting de base.
Ça c'est
du
le setting pré-écrit en fait pour le jeu. C'est pas le setting global de billets d'acier.
C'est bien le Tatarstan et pas le Tartarstan. Hein.
C'est le Tatarstan normalement.
Le Tatarstan.
J'ai essayé. Je peux me planter, mais j'ai essayé plusieurs fois de regarder.
D'accord. Ok.
Et donc là voilà. En gros c'est ambiance. La Russie est en train de perdre. On a tout rapatrié sur Moscou et on met le colonel Lyubimov qui est en charge de la base a réussi en faisant jouer des contacts un peu mystérieux à garder une équipe, sauf qu'on sait pas si pourquoi il tient absolument à rester sur place. Est-ce qu'il veut un dernier baroud d'honneur, est-ce qu'il a un plan vraiment, ou est-ce qu'il préfère se sacrifier plutôt que de perdre et donc sacrifier son équipe et sa fille qui se trouve être à la tête de l'équipe.
Oui, évidemment, d'accord. Excellent. Ok.
Voilà.
J'ai tellement des mèmes à faire.
Ouais. Donc voilà. Donc on va jouer avec prétirés, avec qui ont une histoire, qui sont conçus comme ayant un passé. C'est-à-dire, on pourrait imaginer limite, c'est la dernière séance d'une campagne, et ils ont déjà des enjeux qui leur sont tombés sur la tronche et comment ils vont gérer ça, quoi.
Très bien, très bien. Ok. Et ben c'est parti pour jouer.
Voilà.
Très bien. Oh putain, Maxime, il est infernal cet homme-là. Bon, fin de la partie.
Je suis infernal, c'est ça que tu dis, Romaric.
Fin de la partie de Mécalibreté.
Je suis mort pour tes péchés.
Oui. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, petite question toujours traditionnelle à notre ami Vivien. D'abord, de toute façon, il faut te passer la parole comme ça. Vivien.
Ouais, voilà. Vivien.
Est-ce que ça ressemblait à une partie de mécalibreté traditionnelle ?
Complètement.
Ah.
Enfin, moi, de mon point de vue, point de vue du MJ, oui, ça ressemblait à une partie de mécalibreté. J'ai eu plein de moments de malaise super, qui sont exactement dans l'esprit du jeu. Enfin, non, mais forcément, c'est des situations tendues, quoi. Donc, il y a des moments où...
Je me voilà. suis senti mal à l'aise, super jeu.
Bah là concrètement oui, Libreté et Mécalibreté, c'est quand même fait pour créer du drama.
GN Nordique, BDSM ou les deux?
Ouais. C'est...
Des fois on y va pour avoir mal.
Donc bon, on va pouvoir comme ça débriefer une partie qui selon toi est assez canonique.
Ouais.
Bon, très bien. Qu'est-ce que vous en avez pensé autour de la table ? Qui veut prendre la parole en premier ? Peut-être raconter les personnages, évoquer vaguement ou rapidement la fiction. Natacha a un sourire, une banane, elle a la pêche ! C'est incroyable ! Tandis que les fiches de personnages se distribuent, parce qu'en fait vous avez vos notes
dessus. Ouais, moi je peux le faire sans le perso en fait sous le nez, mais...
Ok.
En fait, c'est aussi parce qu'ils ont tous des noms oui. Comment dire, inhabituels parce que russes ou tatars et que du coup ils se souviennent pas.
Non, ce qui est très drôle en fait, c'est que les personnages on les choisit selon le titre, comme on l'a vu dans le pré-podcast, genre l'obéissance, la souffrance et compagnie. Et après on découvre le nom. Mais ça, le nom on s'en fout un peu, tu vois. Enfin, bah il y a l'archétype et il y a le nom, mais bon. Donc moi je jouais Nikita Lyubimova, la fille du colonel Alexander Lyubimov, qui est notre patron. Je jouais l'obéissance, c'est-à-dire en gros la chef d'équipe qui ne sait pas faire autre chose que suivre les ordres, qui du coup ne sait absolument pas ce qu'elle veut, elle. Et c'est précisément le genre de rôle qui sont dans ma zone de confort du malaise. C'est quelque chose que j'ai fait beaucoup dans ma vraie vie, que je fais encore des fois. Et du coup, j'anticipe. Moi, ça me permet d'être en grande sécurité. Parce que comme je sais précisément les dilemmes que va affronter le personnage, ça me permet de ne pas me le prendre en pleine gueule. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Genre, je ne me les prends pas en pleine gueule. Et c'est assez cool parce que du coup, j'ai vraiment... Au début, je me disais, ouais, j'ai peur d'être un peu trop autoritaire, violent et que les autres suivent. Ils n'ont pas du tout suivi. Et vu qu'ils n'ont pas du tout suivi mes ordres, c'était parfait dès le début. J'ai vraiment senti le côté de l'équipe qui part à volo, personne qui suit, personne qui travaille ensemble. Et le personnage, du coup, qui part à volo en même temps que l'équipe. Parce que s'il n'arrive pas à les maintenir soudés et à aller vers l'objectif qui est gagner la guerre, alors il n'a pas de raison de vivre, quoi.
D'accord. Natacha ?
Je rebondis sur effectivement les personnages étaient suffisamment bien conçus pour que non, c'est pas possible qu'on t'obéisse en fait. Et donc je rebondis là-dessus pour décrire le mien. Donc moi je jouais l'archétype la monstruosité qui peu de temps avant le début de la partie et le début de la fiction avait dans une réaction d'instinctive de protection pour quelqu'un d'autre de l'équipe. Vu son corps se modifier pour devenir un espèce de monstre à visage humain, voilà donc.
Super comme jeu, vient vraiment impeccable.
Et donc qui essaye de cacher ça aux autres, mais qui en même temps qui a envie de, qui recherche l'approbation et l'affection surtout de la part des autres. Voilà donc j'étais un peu partagée entre aimez-moi mais ne vous approchez pas trop. Voilà.
Génial. Ça fait penser au... Ouais, enfin, bref, vas-y Valentin, je crois.
Oui, donc pour continuer sur la bonne ambiance, moi je jouais La Souffrance.
J'adore les... Ça fait très nom de méchant de Metal Gear quand même tout ça. Hein.
Ouais. Connu sous le
nom... La Souffrance n'est pas Shinji, pardon.
Selma Mexen, qui est une fille du coin. Ses parents habitent dans la ville qui est soumise aux attaques des géants et qui est secrètement amoureuse du capitaine joué par Maxime. De la capitaine, avec une relation assez conflictuelle et problématique. Voilà.
Yes. En termes de fiction, qui veut se lancer rapidement, hein, encore une fois, on ne s'apesantit pas trop, mais c'est... Alors, juste
on
pour.
On ne va pas s'apesantir parce que le cœur de Libreté, avez... ce n'est pas l'histoire, c'est les scènes, mais en gros, en méga résumé, on a eu un briefing avec directement des petits conflits qu'on déterra plus tard. On a eu une première scène de méca. Assez cool. En fait, l'action s'est résumée à vous devez transporter un objet d'un point A à un point B. Évidemment, il se passe des problèmes avec combat et à la fin, on peut pas en fait escorter le train et on a plus ou moins le choix entre sauver les gens ou faire la mission. Certains choisissent de sauver les gens, d'autres la mission. Donc, on revient à la base et débriefing super difficile, parce que il y en a qui ont obéi aux ordres, d'autres qui n'ont pas obéi aux ordres.
Évidemment.
Là, gros moment dans la base où les tensions sont là, chacun fait des scènes de son côté, entre la monstruosité qui cherche à en savoir plus sur elle-même en confrontant sa mère adoptive qui veut pas lui parler. On a découvert ce que c'était que l'arme, et en fait c'est un enfant, donc c'est chaud. Il y en a qui ont des dilemmes vis-à-vis de ça, d'autres qui n'en ont pas. Le dilemme amoureux qui se crée avec une tension, les deux personnages qui couchent ensemble, mais un qui s'accroche d'autant plus et l'autre qui dit non, c'était une erreur, il faut plus jamais que ça n'arrive, un dîner presque parfait. Non.
Alors pour l'ambiance, on va mettre 9 parce que
où les choses sont dites et clairement on apprend que la prochaine mission va être clairement la dernière, on va peut-être gagner la guerre.
Mais il y aura des sacrifices.
Mais il y aura des sacrifices. Le lendemain, chacun vit les trucs de son côté avec du drama. Moi, mon personnage va voir son père pour se faire rebooster en fait, pour à nouveau essayer de reprendre pied dans la mission. La dernière mission se lance. Deux font un passage au milieu des créatures pour qu'en fait le capitaine emmène le colis jusqu'au cœur de la faille, sachant très bien qu'il y a de fortes chances qu'il n'en revienne pas. Et en fait, il laisse pas le collier aux autres parce qu'il sait qu'ils iront pas jusqu'au bout. Et du coup, en fait, le capitaine meurt seul en ayant réussi à amener le collier jusqu'au bout, en fait, en ayant mis fin à la guerre. Mais il meurt seul en pouvant même pas communiquer parce qu'il est dans une espèce de bulle de non-réalité. Et ce qui est marrant, c'est que les deux qui étaient prêts à se sacrifier, au final, sont ceux qui vont devoir
assez
vivre.
C'est paradoxal et assez intéressant, en fait.
Sont ceux qui, en fait, ils arrivent à s'en sortir et ils s'échappent, visiblement. Parce qu'ils savent, comme il y a eu des désobéissances, il y en a une qui sait que si elle retourne à la base, elle va affronter la cour martiale, et ils préfèrent se faire passer pour mort et s'enfuir. Et ça, ils vont en parler eux-mêmes, mais ça se termine sur un climax comme ça, où en fait, le capitaine meurt à coup sûr, grosso modo. Enfin, on ne sait pas si elle est morte ou si elle a atteint un état de conscience.
En tout cas, voilà, coupée dans un autre monde.
Enfin, la mission a été accomplie, le monde est sauvé. Mais les deux autres vont devoir vivre avec ça, quoi.
Avec la mort du capitaine sur la conscience.
Et le capitaine qui aura donc obéi aux ordres jusqu'au bout.
Vous vous sentiez un peu lâche du coup d'avoir abandonné votre capitaine comme ça, ou... ça a fini un peu sur une espèce de jugement moral. Enfin, je sais pas comment vous avez fini. Vous avez discuté
en fait,
de quoi après la partie.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément un sentiment de lâcheté, parce qu'en fait, l'intégralité des scènes et des interactions qui ont eu lieu rendent la situation très complexe.
Mais bien sûr.
Donc en fait, c'est une situation très riche dans laquelle les sentiments qu'on va ressentir et l'état émotionnel dans lequel on va être, c'est pas simplement de la lâcheté ou de la tristesse. C'est très mixé et très complexe, quoi.
Excellent, excellent, excellent. Ok, très bien. Une scène qui vous a particulièrement marqué, pourquoi, comment ça marche, qui veut se lancer dans le débrief plus exact du... Alors,
du côté de mon personnage, il y avait une relation donc avec le capitaine. Il y a une scène particulièrement intense dans laquelle mon personnage essaie de se rapprocher physiquement du personnage de Maxime. Et il y a vraiment toute une ambiguïté en ce qui concerne la sexualité des deux personnages. Et il y a, je trouve, dans Libreté quelque chose de très intéressant qui ici prenait une forme très évangélion. C'est le rapport au corps qui est à la fois outil, objet de désir, objet de révulsion. Il y avait cette scène de sexualité qui, pour moi, cristallisait plus les enjeux dramatiques qui sous-tendent les enjeux interpersonnels. Pour moi, c'était assez intense, en tout cas.
D'accord, ok. Comment le système justement t'a encouragé à jouer cette scène, etc. Parce que moi, j'ai jamais joué à Libreté, donc je suis vraiment naïf, tu vois, en tant
je
que.
Sais.
Ouais, non mais voilà, c'est trouvé que je n'ai. Alors donc, comment ça se passe?
Tu veux dire que t'as pas le temps, c'est ça?
Non, 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 j'ai pas eu l'occasion surtout.
Alors en fait, il y a plein d'incitations indirectes, très très bien vues dans Libreté, qui amènent ce genre de scène complexe et très riche. Donc déjà, il y a le système de la bile noire qui va faire que dès qu'on a quelque chose qui nous terrorise ou qui met notre personnage en fonction de son playbook, en fonction de sa fiche de personnage, ouais, dans une situation difficile, par exemple. Moi, je gagne souvent de la bile lorsque je suis blessé à cause de ce que mes supérieurs me font faire. Je suis blessé. D'autres sont blessés à cause de ma faiblesse ou ceux que j'aime me méprisent ou me rabaissent. Donc du coup, je suis dans une situation où, par rapport aux autres playbooks, il y a tout un équilibre qui fait que je vais avoir tendance à prendre sur moi de la souffrance, essayer d'éviter cette souffrance ou alors de m'y confronter. Donc en fait, ça canalise
des choix de jeu.
Voilà, des choix de jeu et des
ton positionnement.
Voilà, c'est un positionnement qui est très subtil en fait. Mmh. Et ça oriente des scènes qui sont tendues et très riches en implications.
D'accord.
Donc il y a cette bille noire déjà qui participe de ça. Ensuite, il y a le scénario ou la préparation en tout cas initiale de Vivien qui va créer une situation complexe et pleine d'enjeux déjà en germe. Mais c'est pas des enjeux dans lesquels on est forcé d'aller dans une direction ou une autre. C'est juste plein d'opportunités pour nous de nous en saisir d'une manière ou d'une autre.
C'est formulé sur les fiches de personnages, je trouve, de manière Natacha. À ce que ce soit suffisamment ambigu pour qu'on puisse s'en emparer comme on en a envie. Mmh. Bah, je te laisse terminer. Puis, hein.
Sont des couleurs. Sens de...
Juste pour préciser, du coup, ça, c'est des pré-tirés, puisqu'on avait dit c'est un
oui,
cadre.
Tout à fait.
Donc normalement, ils sont plus détaillés que ne le seraient en fait des personnages créés pour l'occasion, quoi, finalement. Donc il y a quand même déjà des dynamiques. En fait, le scénario quasiment est conçu comme une fin de petite campagne,
ouais.
Où donc le personnage de la souffrance vient de dire, venait juste de dire je t'aime à l'autre qui sait pas quoi en faire. La veille, quoi,
oui,
qui sait pas comment gérer.
La troisième roue du car, enfin, du triangle amoureux débarque en plus à ce moment-là, donc.
Alors ça, c'est ce qui arrivait en jeu, par contre,
ouais,
du coup.
Ouais.
Là, je parlais vraiment de ce qui s'est arrivé avant qu'on commence même
d'accord,
à jouer.
Oui.
Elle lui avait dit je t'aime, donc l'autre savait pas comment prendre ça. Et toi, ton personnage, du coup, Natacha, venait de montrer un visage monstrueux et avait découvert qu'elle était un monstre. Et ça, c'était avant la partie même. C'est, on partait sur ces bases-là, voilà où on en est, action, quoi.
D'accord.
C'était
Valentin.
Fait pour lancer le truc le plus vite possible pour pas, c'est un one shot, quoi.
Tout à fait. Mais de toute façon, ce genre de choses-là sont construites dans une partie quand il n'y a pas forcément de pré-tiré et ont d'autant plus de chance, de sens qu'elles ont été jouées et qu'elles ont vraiment une implication par rapport à ce qu'ont fait les joueurs avant. Et donc, une des dernières incitations, mais il y en a d'autres, hein, une des dernières incitations subtiles, c'est les moves. Donc, par exemple, on peut se confier pour essayer de créer quelque chose avec un autre personnage, essayer de perdre de la bile noire, essayer de créer du lien. Et donc ça nous incite en fait à avoir ce genre de scène, mais toujours pareil, c'est pas une incitation qui est très directe, qui nous contraindrait à faire quelque chose. C'est vraiment des outils qui sont laissés à la disposition du joueur et qui vont permettre de développer toute cette richesse, cette complexité à travers toutes ces incitations en fait, qui sont autant d'outils pour les joueurs, quoi.
Donc encore une fois, un petit rappel aussi de la mécanique de la bile noire et de comment elle s'utilise, peut-être Vivien, ça vaut vraiment le coup,
ouais,
je pense.
Très rapidement, en fait, vous avez des jetons de bile noire devant vous qui voilà, que vous prenez en fait quand vous estimez que votre personnage a réagi émotionnellement à quelque chose, donc stressé, humilié, énervé, etc. quoi, tout ça.
La bile noire augmente.
Voilà, la bile noire augmente et vous pouvez la réinvestir dans des actions, donc ça c'est ce qui vous permet en fait de mieux réussir vos actions, d'avoir plus de chances de réussir, sachant que si vous faites un jet trop haut et donc avez par exemple mis trop de bile noire, vous risquez d'aller trop loin et donc de faire mal et donc généralement de regagner de la bile noire derrière et ainsi de suite. Et si vous économisez la bile noire et que vous, à partir du moment où vous en avez 5, je peux demander un test de craquer en fait.
Voilà, j'allais te poser la question justement, c'est quoi l'intérêt de faire une scène, un moves pour perdre de la bile noire? Et là tu viens de répondre du coup à la question.
En fait, la vraie réponse qu'il faudrait donner, c'est l'intérêt, c'est qu'on veut. On veut aller trop loin, on veut que les choses dérapent, parce que c'est le cœur du jeu. En fait, quelqu'un qui aurait pas envie de ça, il vaut mieux qu'il joue pas au jeu, parce que il trouvera pas son intérêt là-dedans.
D'accord.
On peut jouer à côté et quand même s'amuser, je pense, mais c'est quand même passé. Enfin, il y a d'autres jeux qui feraient mieux le boulot que celui-là, dans ce cas.
D'accord, Natacha.
Alors dans ce cas, parce qu'en fait, moi, je me suis retrouvée bloquée à un moment donné parce que j'avais. Alors déjà, je me souvenais pas très bien des règles de liberté parce que ça fait un moment que j'ai pas joué, et aussi parce que j'ai pas été assez attentive à ce qui avait marqué sur la fiche de perso et puis sur les lettres de jeu au centre. Et donc, je me suis retrouvée avec 15 milliards de jetons de billes noires devant moi. Et donc y a une scène où Vivien me propose, me dit de craquer. Et donc moi je me dis, ah bah oui, c'est cool, là c'est vraiment le moment où effectivement ça va complètement avec la fiction. Et en fait, donc j'ai au départ pris 2 jetons pour dire ok, je craque. Et en fait, on s'est mal compris. Et du coup, en fait, j'ai fait un jet et les dés m'ont dit non, tu ne craques pas. Donc du coup,
c'était voilà. Un peu frustrant pour
toi,
je pense.
Ouais, c'est ça, c'était assez frustrant, ouais. Et donc du coup, c'est après coup que je me suis aperçu plus tard dans la partie que je pouvais décider aussi de...
Oui, c'est ma faute, hein. Enfin, en tout cas,
c'est partagé, parce qu'on aurait pu, j'aurais pu te dire ça aussi, plutôt que c'était marqué sur les
on
fiches.
Est d'accord que là, dans ce cas-là, ça va, ce serait aller à l'encontre de l'esprit du jeu, quoi. T'empêcher, alors que t'as envie.
Voilà. Mais du coup, je me pose même la question, en fait, de si finalement, si ça peut être être utile quand même de se dire ouais non là il faut pas que je craque parce que ça risque de te faire tout débarrasser.
Je pense que en fait il y a des moments où même si tu es dans l'esprit que t'as envie de craquer tout ça, enfin de faire des dramas et tout ça, il y a des moments où en tant que joueur je pense t'as envie qu'on te pousse un peu, qu'on te dise voilà tu vas faire un jet de dé et le jet de dé va t'aider à décider. Il y a des fois où t'as pas envie de prendre la décision toi-même et je pense que le craquer est là pour ça. En fait.
Ouais, parce que t'as pas envie non plus de prendre la responsabilité dans la fiction d'une grosse merde forcément.
Peut-être,
en tant que
peut-être
joueur.
Que t'as deux embranchements et tu sais pas lequel est le plus
intéressant. J'aurais craqué vraiment dans la salle de commandement au moment du briefing ou du débriefing par exemple, ça aurait été peut-être un peu plus problématique. Et là, le jet était nécessaire, c'est sûr. Mais du coup là, bon, c'est dommage que.
Et puis en jouant en one shot, donc les conséquences sont moins importantes en fait part. Alors qu'en jeu en campagne. Si on se projette dans l'idée que t'as un perso que t'as envie de quand même faire durer, il y a des trucs que t'as pas envie parce que tu sais que tu vas devoir gérer ses conséquences longtemps, et pas juste pour une heure et après tant pis on part en flamme et hop c'est parti.
Ouais, l'implication est beaucoup plus grande effectivement. Valentin, tu voulais réagir un petit peu. Je t'ai vu lever le micro un peu genre.
En fait c'est intéressant parce que dans les jeux propulsés par l'apocalypse, il y a cette dynamique de on tente des actions, parfois on réussit, parfois on rate et il y a des conséquences lourdes, parfois on réussit et on doit faire un choix où il y a des petits problèmes. Qui s'insère. Donc ça crée une dynamique très intéressante qui propulse la fiction en fait en avant. Et ce qui se passe dans Libreté, c'est que à cette dynamique qui existe déjà se rajoute la dynamique de la bile noire qui va induire une question au sujet de l'horreur en fait de l'univers et qui va propulser le jeu vers des relations toxiques, complexes, avec des événements traumatisants pour les personnages, voire pour les joueurs. Et donc, il y a vraiment ce couplage entre tous les éléments de préparation, plus le jeu propulsé par l'apocalypse qui emmène la fiction et qui l'a fait avancer, plus cette problématique de l'horreur, en fait, qui se surimprime. Et moi, je trouve ça super, quoi.
Ouais. Maxime, toi.
Moi, je voulais dire qu'en fait, il y a une vraie cohérence dans Libreté entre le système et ce que le jeu veut te faire. Et moi, c'est ce que j'aime depuis le début, quand on l'avait déjà dit dans le playtest à l'époque. Et la mécanique de la bile noire, elle est nickel, quoi. Enfin. Ouais.
Entre le jeu, le système, entre ce que le jeu veut te faire faire, le système et la symbolique qu'il y a derrière aussi. Parce que.
De l'extérieur, j'ai encore jamais joué à ce jeu, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, mais c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est le gros truc.
Comme je dis, le moment où le personnage de Valentin vient et dit « Oui, je me mets dans tes bras pour avoir un câlin », et je lui réponds « Et je te rends ton câlin », et je prends une bile noire en disant « Stratégiquement ». Tu vois, ça dit tout, quoi. C'est la bile noire, c'est une métatechnique qui permet vraiment de signifier que des fois ton personnage y fait des choses.
Ça emprunte en fait les actions, ça donne une force symbolique aux actions.
Ouais, exactement. C'est une métatechnique qui permet de montrer ce que ça permet de montrer sans faire des monologues intérieurs très longs.
Show don't tell, quoi. Ça show sans télé. Je sais pas comment dire.
Ou simplement parce que c'est pas toi qui as la parole, mais t'assistes quand même à une scène où il faut que tu montres aussi aux autres comment tu réagis ou comment ton personnage réagit. Donc c'est un moyen silencieux aussi de montrer ta réaction, quoi.
Ouais, c'est assez génial. Valentin.
Et en fait, donc ce qui est aussi très intéressant, notamment avec donc tu appelles ça une métatechnique, mais en fait on peut voir l'intégralité des outils Libreté comme pouvant être employés de deux manières, soit pour effectivement créer des scènes qui nous intéressent, signifier des choses aux autres joueurs sur comment se déroule la fiction, mais aussi pour se mettre dans la peau du perso. Donc ces deux modes de jeu en fait que j'aime beaucoup et on peut alterner entre les deux et on peut même les rendre un peu flous. C'est-à-dire est-ce que les actions que je les fais pour créer une belle histoire et créer du drame? Ou est-ce que les actions que je fais, c'est parce que je suis carrément dans la peau de mon perso et c'est ce que j'ai envie d'obtenir? Et il y a ce flou et cette possibilité de s'engager dans son personnage, voire se désengager un peu quand c'est trop intense. En fait, on peut même calibrer notre niveau d'intensité sans forcément le dire aux autres joueurs, en fonction de ce qui nous intéresse. Moi, il y a plusieurs fois dans la partie où je faisais des actions parce que viscéralement, j'étais dans la peau de mon perso et j'avais vraiment envie que quelque chose se passe. Et il y a parfois où je me suis mis un petit peu plus en retrait. Donc c'est quelque chose que Libreté permet, et le permet très très bien, quoi, je trouve.
Ouais, moi, il y a eu plusieurs scènes qui m'ont vraiment.
J'allais te poser des questions justement.
Voilà, justement, franchement, là, il y a une bonne grosse majorité des scènes où le spot était sur mon perso, j'ai adoré, quoi. Enfin, déjà, j'ai adoré regarder. Enfin, ce que j'adore dans ce jeu, c'est même regarder les autres jouer, c'est génial parce que t'es vraiment en tension, c'est ouf.
Natacha plus toi.
Mais en plus, la table a bien fonctionné dans le sens où on avait vraiment une bonne notion de la bonne phrase au bon moment.
Ouais.
Et ça. Ça fait vraiment du bien parce qu'il y a des moments, en fait, on s'accordait des silences les uns les autres. Au début, il y a eu un petit moment de calibration et puis on s'accordait les bons moments. Et alors, enfin, je sais pas moi, ne serait-ce que le tout début où il y en a un qui répond devant le supérieur et mon personnage se retourne et lui met une tarte directe en lui disant tu réponds pas à un supérieur comme ça. Enfin, les scènes qui m'ont vraiment fait du bien, enfin que j'ai vraiment apprécié, ça a été la scène dans les douches où mon personnage essaye de lutter contre, enfin il va pas bien à ce moment-là. Et le personnage de Valentin, du coup, lui dit de quoi t'as besoin, et mon personnage ne répond rien parce qu'en fait il ne sait pas ce dont il a besoin. Et
ça malaise peut-être.
Et le sien, du coup, le personnage de Valentin commence à retirer ses vêtements, quoi, parce que le mien est déjà à poil à ce moment-là. Et la tension qui arrive à ce moment-là est vraiment.
Ça fait tellement Évangélion comme scène. Oui. Arrête, raconter, t'es là. Oh, c'est tellement dans le canon esthétique, bordel.
Ouais. Donc il y a ça. Les scènes de la première scène de combat, moi je l'ai trouvé bien cool. Parce que rien qu'à suivre comment chacun essaie de se dépatouiller. Et puis c'est génial quand tu vois le personnage de Valentin qui échoue à ses tirs. Et c'est tellement parfait compte tenu de son personnage. Tu dis oui, heureusement qu'il a échoué. Et le mien qui intervient au milieu pour sauver, mais au prix de, vu que mon personnage avait fait une super réussite, il a défoncé au passage le méca de Natacha. Et c'est génial dans l'histoire parce que le mien, ça montre que la mission avant tout, quoi. Donc je suis prêt à défoncer le monstre au prix de la santé de mes camarades. Ouais. Et c'est le pire capitaine du monde, quoi.
Et c'est génial dans la dynamique et dans les caractères des personnages parce que c'est aussi un peu ce qui s'est passé dans le drama, en fait.
Putain, oui, c'est vrai.
Voilà, enfin.
C'est mon personnage qui est prêt à faire en sorte que celui de Valentin aille mieux, en quitte à coucher avec lui. Quitte à ce que celui de Natacha prenne en
par jalousie,
par jalousie
ou collatéral. Alors justement, donc là, ce que tu veux dire, c'est que le combat, alors c'est ce que je préfère dans les fictions, c'est quand le combat est à l'image de l'histoire et du drama. C'est-à-dire que pour moi, un vrai combat, une vraie scène d'action dans un film quel qu'il soit ou dans une fiction quelle qu'elle soit, c'est un combat qui quelque part met en scène ou synthétise tout le drama qu'il y a eu jusqu'ici et jusqu'à présent. C'est un combat qui a beaucoup de sens. Alors là, ça me fait des frissons quand vous me parlez de ce combat là. C'est génial.
Ouais, c'est totalement en lien avec le système de jeu qui vraiment soutient ça à fond, quoi. C'est complètement cohérent en termes de design, quoi.
Et l'autre scène, moi, qui m'a vraiment fait du bien.
Donc là, excuse-moi, Valentin, t'es en train de dire, c'est pas un accident. Parce que le système
exactement,
et les mécaniques nous poussent.
Je suis d'accord. Et l'autre scène qui m'a fait vraiment du bien pour le coup à moi, c'est qu'à un moment, il y avait une tension de malade. On avait Natacha qui avait 8 jetons de billes noires, Valentin qui devait en avoir 6, et moi qui en avais genre 8. Et je suis allé voir du coup le colonel Papa. Et mon personnage est allé voir le colonel Papa pour une scène en juste seul, et il a un craqué et deux il s'est confié, il avait besoin qu'on le prenne en main, et du coup il a jarté toute sa bile noire dessus, et c'est génial parce que les dés m'ont soutenu et Vivien m'a soutenu à ce moment-là en faisant en sorte que le personnage en face il accepte le craquage. En fait, il s'est comporté vraiment comme un père, mais un père manipulateur quand même, parce que
ouais, puis pas, enfin, mais oui. C'était pas juste de la manipulation, mais il y en avait beaucoup.
Mais moi, ça m'a permis le fait de sortir tous les trucs que moi, Maxime, ressentais vis-à-vis de la situation et pas le personnage. Ça m'a fait du bien. Genre, quand le personnage peut craquer en disant, quand le colonel dit, oui, votre mission a failli être un succès, et puis à la fin, t'as fait de la merde, quoi. Et il a fallu qu'il y ait un de tes subordonnés qui vienne pas au débriefing. Mon personnage a craqué en lui disant, mais putain, c'est quand même pas compliqué, t'as embauché des ados pour être des soldats. Ouais. Je lui dis, au bout d'un moment, c'est à toi de te prendre en main et de te rendre compte que face à toi, t'as pas des adultes.
Ouais.
Et c'est génial de pouvoir le en fait c'était un move de craquer, tu vois, pour moi, et derrière le personnage le PNJ qui se rend compte de ça et qui accepte et qui prend le mien en fait limite dans ses bras en mode mais je sais que mon sang est dans le enfin mon sang coule dans tes veines et tu vas être fort, et mon personnage qui derrière refait exactement la même chose avec le personnage de Valentin qui le prend dans ses bras en mode tu vas être fort toi aussi, quoi. C'est horrible et c'est pas un accident, enfin
bien sûr.
Et pour le coup, c'était un peu méta parce que c'était aussi moi qui avais besoin de relâcher la tension. Et il y a vraiment ça. Il y a vraiment une synesthésie des fois entre le joueur et le personnage. Plus t'as de la bile noire devant toi, plus ça veut dire aussi que toi t'es en tension. Enfin, moi je me suis senti comme ça. J'étais vraiment en tension.
En tant que joueur,
j'étais en tension, mais pas tension mal, pas tension dans le sens.
Ludique, on a envie de dire.
Ouais, voilà. Et donc c'était vraiment très cool.
Valentin, ouais, j'étais dans le même état émotionnel que Maxime avec cette sorte de boule au ventre, mais qui est maîtrisé, tu vois. On le subit pas, on se plonge dedans et le système nous y emmène si on veut, quoi. Et il y a cette, comment dire, dans le système, ces correspondances entre le drame qui peut exister, cette tension-là qu'il y a entre les personnages, et aussi l'horreur physique, quoi, qui se déploie dans plein de dimensions, et l'inhumanité qu'il y a derrière, quoi.
Natacha, j'aurais voulu t'interroger, pareil que donc Valentin et Maxime, savoir s'il y avait des scènes qui t'avaient particulièrement marqué en bien, on va dire. Déçu en bien.
Oui, c'est un peu l'idée du personnage. Oui, bah, en fait, les deux scènes clés pour moi de la partie, celle où les tensions se crispent, c'est-à-dire donc les deux personnages de Maxime et Valentin viennent d'avoir leur scène physique dans les douches, sachant que moi j'ai une espèce d'attirance, mais je sais pas trop ce que c'est, pour le personnage de Valentin, et donc je débarque en pensant que on a réussi à créer une complicité dans le combat avant, et je vois ça, complicité contre
le personnage, ton capitaine,
voilà.
Bien sûr.
Et donc je débarque et je vois ça, donc juste un bide noir à fond, machin, je ressors tout ça. Donc là il y a, c'est pour moi là, c'est le cœur de toute la partie où tout se crispe autour de cette scène là, à la fois entre vous deux, Valentin, Maxime et puis ensuite moi. Et ensuite le moment où on pense reformer une équipe. Donc la scène du repas où j'avais presque les larmes aux yeux, moi, Natacha,
en tant que joueuse,
parce que là aussi il y avait eu quelque chose de très intense, et où tout a été, enfin tout s'est relâché, notamment parce que c'est le moment où je leur révèle la clé de mon personnage, qui est cette monstruosité qui est naissante. Voilà.
Enfin, là, tout le truc, c'est du canon esthétique de d'Evangelion, mais plein la gueule, quoi. Enfin, c'est incroyable. Même japonais, tu vois ce que je veux dire? Les deux personnages qui, sous la douche, commencent à se dévêtir, et le troisième qui arrive et qui voit ça. Enfin,
alors, moi, j'arrive à la fin. La scène a déjà eu lieu. Ouais, mais bon, voilà, c'est ça.
Enfin, c'est tellement japonais dans le. Enfin,
c'est clair.
C'est assez hallucinant. C'est hallucinant. Petite question pour toi, Vivien, pour clore ce tour de table. Quelle scène, toi, en tant que créateur, auteur, MJ du jeu, t'as le plus frappé? Pareil, tu dirais la même scène, celle de...
Ouais, les mêmes scènes qui ont été citées. Globalement, j'étais tout le temps content.
Et pour les mêmes raisons. Ouais, ok, d'accord.
Quand je disais malaisant, c'était au sens de tension, effectivement.
Est-ce que c'est une partie particulièrement bonne par rapport à celle que t'as l'habitude de faire? Est-ce que tu l'admettrais, tu vois?
Genre, en fait, j'en ai fait deux
parties.
Et la précédente était à peu près du même niveau. D'accord. Quoi. Ça fait longtemps, donc je me souviens plus. Mais il y a des moments où honnêtement, en tant que meneur, on est un peu en retrait par rapport aux choses. Et il y a des moments où je disais, mais comment ils font pour tenir? J'avais la tentation, tu sais, de faire une blague ou un truc juste pour désamorcer. Et j'ai pas arrêté de me retenir en disant ta gueule. Enfin, juste laisse-les faire la scène parce que c'est trop chouette, quoi.
Maxime,
moi, par contre, niveau moment moins bien, moi j'ai la scène de fin, le combat de fin. Peut-être que c'est une question d'heure aussi, l'heure qui tournait, je sais pas. Je m'attendais à plus d'action, plus de drama. Ça a été un moment de résolution, ce qui est bien aussi. Hein. Je suis pas déçu de comment ça s'est passé parce que c'est cool, mais c'est peut-être parce que si c'était une fin et qu'on est jamais content quand c'est la fin, mais ça a manqué de verbalisation des enjeux et de qui fait quoi pourquoi. Et en même temps, c'est aussi dramatique. Mais, Natacha, vas-y.
Ouais, je suis d'accord, d'autant que on était toutes les trois, enfin tous les trois, j'ai dit toutes les trois parce que c'était trois personnages féminins, prêts à se sacrifier les uns les autres. Et en fait, au final, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Ah ouais. D'accord, bon, ok.
Toi, Valentin, tu disais en dehors du micro, pas moi. C'est-à-dire que ton personnage n'était pas prêt à se sacrifier.
En fait, il y a une ambiguïté tout le long où, justement, je refusais l'autorité et moi, je ne voulais que sauver mes compères. Mais il y avait cette
consoeur.
Consoeur.
J'entendais se sacrifier pour les autres. Hein,
ouais, pour les autres, mais
pas pour la cause. Hein.
Moi-même, je savais pas trop, tu vois, c'était assez ambigu. C'était presque une fuite plutôt qu'un souhait, quoi.
Ok.
Donc je pense, c'était ce que je pensais. Donc voilà. Et en fait, ça n'a pas vraiment eu lieu. Pour le personnage de Maxime, un peu, Mais moi, j'ai pas eu le move que j'aurais eu.
C'était pas la fin que tu attendais.
Ouais, c'est ça. Puis bon, alors après, il y a aussi une part de déception de l'aider, tout ça. On fait que la fin idéale que j'aurais aimé pour les persos ne s'est pas produite. Mais ça, c'est aussi parce que c'est moi. Mais et parce que c'est pas la fin idéale que moi j'attendais et qu'en fait, pas forcément qui était attendue autour de la table aussi. Donc moi, je voulais que mon perso se sacrifie, que les deux autres survivent. Et du coup, voilà, ça.
Valentin.
En fait, moi, je voulais que mon perso s'abandonne au perso du capitaine.
Et moi je voulais ça en fait aussi. Je voulais qu'il y ait une scène. En fait, à la fin, mon personnage pouvait plus communiquer avec les autres parce qu'en fait, moi je m'attendais à ce qu'il y ait des embûches sur le chemin de Numien. Et en fait, les autres ils ont agi. Il y a eu une opportunité d'avancer. Bon, le mien a avancé. Et à partir de là, il a plus eu d'embûche. Je trouvais ça un peu dommage parce que j'aurais vraiment aimé qu'il y ait une embûche pour que mon perso puisse dire dans les communications genre. Alors que Selma va pas bien et est en train de se faire défoncer par des monstres, moi j'attendais vraiment le moment où le mien fait « Selma, aide-moi !» et elle aurait été énorme cette scène parce que ça aurait été le tien clair. Qui vient, quitte à se sacrifier.
Ou pas d'ailleurs. Enfin,
ou pas, et il y aurait eu vraiment ce moment où limite t'aurais voulu, ton personnage aurait pu vouloir sauver le mien en ouvrant le cockpit et je t'aurais fait « Non, 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 la mission !» Et j'ai pas eu ça, j'ai pas eu d'obstacle sur mon chemin. Ça m'a un peu embêté, parce qu'en fait sur la dernière mission je n'ai jamais lancé les dés. Et du coup voilà, j'aurais vraiment eu besoin de pouvoir appeler à l'aide ou de devoir faire le choix entre le colis et me sauver ou pouvoir repasser le colis à quelqu'un d'autre parce qu'il y a eu une belle scène de tension juste avant la mission où qui porte le colis. Et c'était énorme parce que alors dans ma tête c'était OK, surtout pas Selma, jamais de la vie. Et surtout pas le personnage de Valentin. Dans ma tête c'était bon, c'est Kira ou moi. Stratégiquement ce serait mieux que ce soit Kira, mais j'ai dit en hors-jeu à, enfin j'ai posé la question au personnage de Natacha, genre si je te le confie est-ce que tu vas jusqu'au bout.
Tu l'as posé en jeu.
Je l'ai posé en jeu, ouais.
Pas en jeu. Alors en fait, oui, donc juste pour préciser ce que c'est que le colis et pourquoi je n'irai pas au bout quand même. parce que je sais pas si ça a été dit, mais il me semble que non.
C'est un enfant, ouais.
L'arme est un enfant.
C'est un ado de 14 ans, voilà. Et en fait, du coup, moi, je me reconnais vraiment en lui dans le sens où c'est un pion qui est utilisé. Visiblement, il a une capacité extraordinaire qui va faire qu'il
c'est
va sauver
tout le monde.
C'est
un monstre lui aussi.
Et c'est donc un monstre lui aussi. Donc moi, je m'identifiais énormément à ce personnage-là. Donc ça faisait que, en fait, moi, mon idéal, c'était de sauver tout le monde sauf moi, ou tout le monde avec moi, tant mieux, mais donc que ce gamin survive aussi malgré tout à ce dernier affrontement. Et donc du coup, c'est la question du capitaine se justifiait dans le sens où peut-être que je ne serais pas allée au bout, et d'ailleurs c'était pas forcément mon intention, je préférais peut-être presque sauver le gamin plutôt que
le monde.
Ouais, c'était une vraie question morale là, hein, pour le coup. Et en fait, même moi, Natacha, je ne savais pas ce que j'aurais fait si c'était moi qui l'avais porté, quoi.
C'est encore une fois, c'est le fameux problème éthique de l'aiguillage en fait, sauf que là dans la balance c'est pas un wagon de 10 personnes contre une personne.
Est-ce que t'es utilitariste ou pas, quoi, n'empêche.
Ouais, c'est une question morale.
Voilà. Est-ce qu'il vaut mieux sauver une personne à coup sûr, enfin en étant la personne qui ne l'a pas tué, ou sauver le monde indirectement, mais en éliminant quelqu'un, c'est chaud de porter cette responsabilité.
En plus, moi, c'était pas tant ça. Enfin, là, c'est une problématique que je voyais plus, par exemple, pour le personnage de Valentin. Moi, c'est sauver quelqu'un qui est mon espèce de miroir ou mon double ou enfin.
Et du coup, ce qui était beau, c'est que du coup, le personnage de Natacha a hésité à répondre. Et en fait, on est arrivé à la conclusion que là, t'as hésité trop longtemps, ça sert même plus à rien de répondre, quoi.
Bien sûr, évidemment.
Et
trop
du
bien.
Coup, voilà, et ça, c'était génial parce que du coup, ouais. C'est mon personnage qui a pris sur lui en mode, allez, on va y croire, cette équipe va peut-être faire quelque chose jusqu'au bout, mais en fait, ils vont être bons qu'à me frayer un chemin. Et il y a que moi qui ai les guts d'aller jusqu'au bout.
Je pense que l'erreur que j'ai commise du coup c'est de considérer que les sacrifices qui avaient été faits avant pour te permettre de passer suffisaient, et peut-être que il y aurait une espèce de conflit intérieur, ou je sais pas, peut-être que c'est quelque chose comme ça, je me souviens
en fait,
plus comment j'ai
ça aurait
réfléchi,
été Kira mais... qui le portait, il y aurait eu du ça. conflit, mais étant donné que c'était le mien et qu'il n'y avait pas conflit, il avait déjà choisi d'obéir aux ordres, il fallait que le conflit vienne de l'extérieur et pas de lui, parce que il viendrait pas de lui, quoi.
Je pense que la pression horaire a joué après, en plus
pas dramatique,
non parce que la fin m'a plu, enfin j'ai trouvé chouette, quoi, quand même. Il y a eu quelques moments comme ça, le personnage de Natacha qui se libère pour de ses chaînes, quoi, enfin qui devient une espèce de monstre géant pour pouvoir sauver la souffrance qui était en train de se faire dépecer, qui s'était coupée elle-même la jambe pour continuer à se battre parce qu'elle était attachée. Enfin, il y avait quand même des trucs chouettes.
Quand vous avez raconté la fiction tout à l'heure, je trouvais que c'était une fin qui était assez paradoxale et donc assez intéressante.
Ouais.
Du point de vue externe.
Et il y a cette dimension paradoxale que je trouve chouette aussi. Ceux qui veulent se sacrifier sont ceux qui survivent. Celle qui veut suivre les ordres, c'est celle qui meurt.
Moi, ce que j'entends, c'est des joueurs qui avaient tous des attentes et qui se retrouvent frustrés par une fin qu'ils n'attendaient pas, ou en tout cas qui n'est pas celle qu'ils attendaient. Mais
c'est pas plus mal des fois, parce que le problème en jeu de rôle des fois, c'est quand tu commences à designer il faut surtout pas commencer à designer une scène dans ta tête, parce qu'on est quatre autour de la table.
Je pense que ça a été mon erreur, ouais.
On est quatre autour de la table, et t'es là pour avoir une histoire qui fait de la co-création, pas pour, ça dépend des jeux. Mais là, moi, j'ai fait la même erreur que Natacha. J'ai commencé à investir émotionnellement une scène dans ma tête.
Oui, Maxime, mais il y a une limite à ça. Quand ça fait consensus. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous êtes quand même tous.
Oui, je pense que s'il y a trois personnes qui trouvent que.
Voilà.
Moi, par exemple, c'est pas mon cas, parce que j'ai trouvé ça très intéressant qu'il y ait cette. Cette fin en demi-teinte et frustrante, dans le sens où je trouve que ça participe de l'ambiance où. Il n'y a pas de sacrifice héroïque.
Ouais, c'est arbitraire.
Voilà, c'est ça. Ceux qui voulaient mourir sont en vie, ceux qui voulaient vivre sont morts. Et c'est terrible.
Et ça n'a pas de sens.
Voilà,
c'est absurde.
Et c'est très, très évangélien aussi.
Je vais faire une référence pourrie, mais moi, c'est un peu une fin à la Pearl Harbor où finalement, c'est l'autre qui revient à la fin et pas celui dont elle était tombée amoureuse. Enfin, tu vois, y a un truc,
Moi, je trouve ça génial que mon personnage qui est en mode t'obéis aux ordres, t'avances. Et non, le monde extérieur ne va pas te mettre d'obstacle. Si tu voulais pas y aller, n'y va pas. C'est moi Maxime qui aurait voulu que le personnage, il y ait quelque chose d'autre qui vienne lui dire stop. Non mec, si tu veux que ton personnage hésite, fais-le hésiter quoi. C'est aussi ça quoi. T'as les moyens, il a 5 jetons de bile noire, il y a clairement les moyens qu'il hésite. En fait, s'il crève, il crève parce que je l'ai décidé en fait. J'aurais pu le faire hésiter.
C'est le jugement dernier et c'est toi qui l'as porté sur toi-même.
Mon personnage, il a choisi de rester dans son archétype jusqu'au bout et il assume quoi. Et moi c'est le genre de personnage que j'ai l'habitude de jouer la partie n'a duré que 2h30 donc forcément sur 2h30 il reste
2h30 vous faites des trucs aussi bien.
Ouais.
C'est un jeu très bon.
Et il a pas eu le temps, le personnage, il a quand même eu des gros dilemmes dans la gueule, mais il a pas eu il était plus dans la phase d'établissement de son archétype et donc il l'a suivi. Le jeu aurait duré sur une campagne complète. Il aurait pu sortir de son archétype Mesa, ils étaient designés comme une fin de campagne. Donc ça s'est passé comme ça. Mais pour avoir déjà joué un personnage comme ça, il sort de son archétype à la fin, ou en pétant un câble en général. Pas mal. L'effondrement psychologique est très rigolo à jouer à la fin. Mais là, j'ai pas eu le temps, il est mort, donc c'est cool. En fait, c'est peut-être mieux pour lui.
Vivien, tu voulais intervenir? J'aurais une.
Oui, je voulais dire, en fait, ce que Maxime dit, ça me fait penser en fait, à ce qu'on a dans une fiction. En fait, t'as un moment, dans un film, t'as un moment de choix. Et une fois que le choix est fait, il est censé être. T'es pas censé revenir dessus parce que sinon c'est pas un choix très important si tu reviens dessus. Et je pense que le moment du choix de est-ce que je reste dans mon archétype ou est-ce que je deviens est-ce que je change quoi complètement avait été fait en amont. Justement.
Mais regarde par exemple dans Star Wars 8, qui est un film que tu adores, Vivien, n'est-ce pas?
De toute façon, tous les Star Wars Disney, je les achète et je les regarde en boucle.
Parfois, il y a des personnages qui décident d'aller au bout. Qui décide de sacrifier, comme donc Finn, à un moment donné, il décide de foncer vers un canon, et au dernier moment, il y a un personnage qui va le sauver, et ça crée aussi quelque chose.
Ok, non, faut vraiment que je dise que je déteste ce film. Tu me rappelles pas des scènes, s'il te plaît.
Voilà, tu veux dire ce moment où les canons avaient juste à décaler légèrement sur la droite pour les achever?
Non, mais voilà, c'est pour te dire que, après, on peut dire que le film est mauvais, mais ça, c'est encore autre chose. Mais voilà. Valentin, t'avais quelque chose? Ok, alors moi, j'ai une petite question. C'est, vous êtes la scène, on va dire la plus contestable de la partie. Vous êtes d'accord pour dire que c'est celle-là, sauf Valentin.
La scène de fin, ouais.
Ouais, voilà.
Contestable. Ouais.
Enfin voilà, c'est juste s'il y avait une petite scène à vrai dire.
Il faut vraiment en choisir une, quoi.
Voilà, s'il fallait en choisir une. Voilà. Et donc on est d'accord, il y en a pas d'autres. Voilà, c'est ça, c'est tout ce que je voulais vous poser. Ensuite, une petite question.
Au total, on a joué 3 ou 4 scènes, donc peut-être 4-5.
Oui, mais tu vois, même il y a des moments parfois une partie où même si la scène dans son intégralité est bien, tu te dis, merde, là, il y a un truc. Par exemple, le petit moment Natacha où elle nous dit qu'elle aurait voulu réussir son craquage et où elle ne. Tu vois, ça fait partie des petits moments de déception qui ne sont pas forcément liés au jeu d'ailleurs, qui peuvent être liés au système.
Ni au jeu ni au système, c'est lié à notre mémoire personnelle.
Oui, et puis à la mise. Si, un peu au jeu, parce que des fois, la mise en.
cool. Enfin,
ouais, et puis la mise en pratique des fois de concepts théoriques n'est pas toujours parfaite.
Et puis, encore une fois, ça n'a pas empêché que ça soit cool.
Je voulais juste savoir s'il y avait eu d'autres petits moments.
On a rattrapé, quoi, on va dire.
Ok, très bien. Du point de vue éditorial, maintenant je me retourne vers toi, Vivien. Qu'apporte.
Justement, j'aimerais bien faire une petite remarque et une question à Vivien. Il y a quelque chose que j'aime énormément dans le jeu, c'est le fait de d'arriver à mixer de manière aussi élégante et intéressante des enjeux que je dirais esthétiques et dramatiques, tu vois. C'est-à-dire que on a vraiment un... Moi, j'ai l'impression que l'univers se déploie comme une peinture autour de nous, avec une véritable cohérence. On a parlé de la corporalité, de la physicalité, même de la bile noire qui s'incarne dans le monde. Mmh. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un couplage très fort entre les éléments esthétiques et les éléments dramatiques, quoi.
Alors, toi, t'es en train de nous dire que le jeu fait... Attends, si on veut traduire en termes antiques, forgien, tu sais... le vieux de la cellule.
J'ai noté « fuck GNS ».
Voilà, « fuck GNS ». C'est-à-dire que là, le jeu fait à la fois le narrativisme et le simulationnisme en même temps.
Et autre truc, après je vous laisse la parole, c'est j'ai la sensation qu'il y a vraiment un gros potentiel de secrets à découvrir dans le jeu. Je sais pas si c'est un truc qui t'intéresse ou pas. Moi, je trouve ça appétant, tu vois, d'arriver à mixer esthétique, drame et secrets qu'on nous cache, quoi.
Tellement.
Alors là, Natacha Pussois, évidemment. S'il faut pour découvrir les secrets, c'est quoi? Faut backer tous les jeux de Vivien Ferrat.
Ouais, c'est ça. Non, peut-être. Bah, j'espère maintenir un niveau de cohérence incroyable de jeu en jeu, mais c'est pas une garantie.
J'ai accès à des secrets parce que j'ai joué à un jeu du Game Chef obscur dont il n'y a eu qu'une seule partie.
Il y a d'ailleurs une référence à ce jeu dans le supplément.
C'est le Vivien fait à son univers, Extended Universe. Ouais. Et attends,
comme des larmes sous la pluie.
Ouais, il était très rigolo ce jeu.
Ah oui, c'était bien amusé.
J'avais une autre truc. Ouais, ce que vient de dire Valentin, je vais le préciser. En fait, je crois pas qu'on l'ait dit qu'en fait, la bile noire, donc c'est des billes qui sont au centre de la table qu'on prend pour être comme des jetons que quand on les investit, en fait, qui représentent nos émotions négatives et qu'on peut investir pour réussir nos actions.
Oui.
Et dans le jeu, quand on est dans nos mécas, il y a des gouttes noires qui nous soignent dessus.
Ouais.
Et en fait, du coup, factuellement, plus nos personnages ont accès à la bile noire, plus ils sont forts.
Oui, bien sûr.
C'est cohérence en jeu, hors jeu.
Ça, vous l'avez expliqué en
synesthésie,
préparation de la règle.
Mind blowing, voilà.
Oui, moi, j'ai aussi vu ça comme les origines de ma monstruosité. La monstruosité, c'est qu'un symptôme de cette bile noire qui commence à déborder. Mmh. Et je pense que c'est aussi pas pour rien, du coup, que je me suis retrouvé avec le joueur autour de la table. Il y avait le tas de bile noire qui s'était entassé autour de moi. Là. Donc, du coup, c'était un peu. Au bout d'un moment, ça déborde.
La bile noire dans la monstruosité, ça me fait tellement penser, tu sais, à X-Files ou à,
l'huile noire.
Même à Alien dans lequel les créatures également ont cet aspect noir.
Non, fluide. C'est pas Alien.
Bah là, le monstre qui est en.
Non, je pensais à l'autre Prometheus là.
Ah oui, d'accord.
Ce truc de merde là.
Bah,
cette huile noire qui change de propriété selon les désirs du scénario quoi.
Ouais. Oui, mais je pensais à ça effectivement. T'as raison de le souligner. C'était plus à Prometheus qu'à Alien que je pensais. Mais l'alien en elle-même est une créature aussi noire, luisante, tu vois, qui représente une certaine forme de truc qui est à l'intérieur et qui veut sortir quoi, tu vois, quelque part. Bon.
Vu l'alien, c'est aussi une métaphore de plutôt quelque chose qui veut rentrer. Quoi. Enfin,
ouais, il y a un peu des deux.
C'est dégueulasse, mais c'est vrai. Enfin,
oui, tout à fait. Il y a les deux, justement, dans l'univers de Guilgear.
Et juste pour finir sur la question des secrets, c'est pas extrêmement développé. Il y a quelques secrets qui sont donnés. L'enjeu, c'est vraiment de les donner au moment où ça va créer du drama. Le but, c'est d'un coup, tu découvres que t'es un monstre. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu découvres que le robot géant que tu pilotes, en fait, c'est pas un robot, c'est un cadavre de géant animé. Ce genre de choses, quoi, où tu découvres que t'as eu un sujet d'expérience depuis toute ta vie. C'est pas le but. Faut pas que ça devienne le but du jeu, parce que sinon, j'ai déjà eu ça à Libreté, en fait. Je sais plus avec qui. Je me demande si t'étais pas là, Maxime. Genre dans les premiers playtests, tu vois, de Libreté, quoi, il y a super longtemps, avec, comment elle s'appelle
Oui, je me souviens.
C'est ça.
Avec qui?
Je me souviens plus du nom du personnage, je l'ai mis en plus. Bref,
donc,
c'est...
En gros, le secret venait
en,
parasiter
En gros, voilà,
drama.
Le secret devenait, finalement, les personnages L'enjeu. Sortaient de Libreté, commençaient à enquêter sur le mystérieux fondateur de la ville.
Ouais,
D'accord. Et je commençais à ramer un peu les. Enfin voilà.
Je me souviens d'une recherche absolument d'infos. On allait dans les caves, ouais. Non pas pour jouer du drama, mais dans
mais
la
pour trouver le secret.
Ça avait fait une partie un peu genre.
Oui, ouais. C'est voilà, c'était ouais. Dans les tout débuts et on sentait déjà que c'était pas trop le sens dans lequel le
donc,
jeu.
Le secret n'a de valeur en ceci, enfin que parce qu'il va créer du drama.
Voilà.
On va découvrir que l'arme est un enfant. Ah. Oh et
voilà.
Du coup, dilemme moral, est-ce qu'on peut l'utiliser, est-ce qu'on doit utiliser un enfant comme
mais je pense que justement dans l'intégration des enjeux que ça devient très intéressant. D'où par exemple l'intégration des enjeux esthétiques et dramatiques. Quoi. C'est-à-dire que quand on a effectivement des éléments de gameplay qui sont bien séparés où on peut trouver des secrets ou faire du drama, là c'est un problème.
Ouais.
Ou alors quand on peut explorer le canon esthétique ou faire du drama, là c'est un problème effectivement en termes de GNS. Mais quand ces enjeux sont tous intégrés les uns aux autres. Comme tu le cites, par exemple, est-ce que découvrir un secret, ça veut dire se confronter à son père à un moment, tu vois. Là, ça peut créer vraiment quelque chose de très intéressant. Je sais pas, mais
oui,
c'est comme
sûr.
Ça que je le vois moi en tout cas, et ça ferait kiffer Over 9000, je pense.
Ouais. En tout cas, c'est un truc à réserver pour, notamment, bah, et puis aussi si le drame commence à tomber un peu, que finalement les personnages ont plus de raison de se mettre sur la tronche, parce qu'après tout, c'est possible. Hein. On n'est pas obligé non plus, voilà. Donc, et que les joueurs ont besoin d'un petit coup
juste
de pouce.
Que t'as créé, ça n'arrivera pas parce que moi, d'expérience, oui. Les personnages comme celui que je jouais, obéissant depuis des plombes, le jour où ils commencent à être sympas, les autres se méfient. Non, mais c'est horrible, hein. Ça fait deux ou trois fois que je le joue et dès que les personnages comme ça commencent à changer d'attitude, en fait, ils essaient vraiment d'être sympas, les autres réagissent en se méfiant de lui. Et c'est horrible parce que du coup ils retombent dans ses travers et c'est des personnages qui ne peuvent pas s'en sortir.
Ce qui est très rigolo, c'est que
ils sont pas
par rapport
ça.
À ça, c'est que après la scène donc du repas où je vous ai dit que j'étais un monstre et que toi tu vas voir ton père, je me suis dit putain si ça se trouve il va lui dire qu'il a découvert ça, donc il va y avoir une trahison en direct sans qu'on n'est pas censé être au courant. Puis après je me suis dit en même temps c'est Maxime qui joue donc en fait non ça n'arrivera pas.
Bah, je raconte ça parce que ça m'est arrivé en GN où je jouais un GN Battlestar où j'étais un personnage bah pareil qui suit les ordres mais qui était capitaine et qui du coup donne des ordres en mode non c'est la mission ou la mort, vous allez jusqu'au bout. Et à un moment au milieu du jeu, bah parce que ça faisait quand même 12 heures que je dormais pas, il y a une mission, on sent qu'ils vont pas y arriver et s'ils la réussissent, c'est au prix de leur santé à se faire irradier. Et au bout d'un moment, je dis non mais laissez tomber, ils y arriveront pas, vous les rappelez. Tout le monde a été super étonné, je dis vous les rappelez et vous arrêtez d'être étonné. Et à partir du moment où je les ai rappelés et donc où j'ai
d'être étonné, voyons.
Voilà, et à partir du moment où j'ai rappelé des gens et enfin mon personnage a rappelé des gens et a fait en sorte que en fait les vies soient sauves au prix de la mission. Tout le monde a commencé à le suspecter d'être si long. Alors qu'il ne l'était pas.
Alors qu'il était juste gentil.
Alors qu'il était, il était juste fatigué et il en avait juste, enfin, en fait, pour le coup, c'était vraiment Maxime qui en avait juste marre d'être méchant. et c'est cohérent. Un personnage, tu le mets en responsabilité oui. Alors que, et il voit tout.
Il y a plein de personnages de fiction comme ça, ils sont gentils et tout le monde pense qu'ils sont méchants. Hein.
Voilà. Bon, après, il est vraiment devenu si long, donc c'était drôle.
Moi-même, mais,
moi-même disais. Ouais, bon, je vais te poser une question plus peut-être pragmatique d'un point de vue éditorial.
Ouais, j'avais entendu le mot éditorial tout à l'heure.
Qu'apporte ce kit à
bien essayé, Valentin, mais je crois que.
Qu'apporte ce kit de présentation okay. À Libreté pour toi ? Pourquoi tu as eu le besoin, tu as ressenti le besoin de faire ça ?
De quoi vraiment le kit dans le supplément ?
Le kit, le supplément, je veux dire.
Ouais. Ah, le supplément.
Le supplément,
parce que
vraiment.
Dans le supplément, il y a un kit de présentation. C'est ça qui est un peu. Ouais. Bâtard, on va dire. On va
excuse-moi,
être honnête,
je parlais vraiment du supplément.
Ouais, bah, le supplément, en fait, il offre déjà, en fait, techniquement, il offre un cadre qui, on va être honnête, n'est pas extrêmement détaillé, hein, parce que c'est des jeux où on crée quand même le cadre ouais. À plusieurs, normalement, si on joue en chronique. Ouais. Il offre aussi, donc, quelques règles et des conseils pour mettre en scène des affrontements entre robots géants avec un système qui, à la base, avait été conçu pour que des gamins se tapent dessus, comme
ouais.
On en avait. On l'avait évoqué.
Ouais, non, mais c'est vrai.
Ce qui n'est pas tout à fait la même esthétique, hein, on va dire.
Bien sûr que non.
Il donne des archétypes nouveaux, donc 6 archétypes nouveaux, quoi, du coup, qui sont différents, avec des pouvoirs du coup différents. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et du coup, il y a le cadre qu'on a joué qui est
voilà.
Décrit avec des pré-tirés pour ceux qui ont envie de juste faire un one-shot et de s'amuser.
Alors, moi,
à
je vais te dire un truc, Vivien, et puis après, je passe la parole à Valentin. C'est juste que quand j'entends le débrief de cette partie. Et quand j'entends les débriefs de parties de Libreté, cette partie me donne beaucoup plus envie parce que je suis beaucoup plus familier avec la couleur. C'est-à-dire, en fait, tout simplement, Libreté, une des raisons aussi pour lesquelles j'y ai pas encore joué, Sa Majesté les Mouches,
ouais, ouais,
ces ambiances-là, franchement, c'est pas ma tasse de thé. Honnêtement, j'y jouerais parce que c'est un jeu de Vivien Féasson et que Vivien Féasson, c'est quelqu'un que j'adore et que je sais que le jeu est bon. Mais on me présente l'univers en lui-même. Je dis, ouais, non, je passe mon chemin. Par contre, là, ce jeu-là, avec ce canon esthétique-là, le trip Évangélion, etc. Alors là, moi, on me présente ça avec un récit de partie comme celui-là. Je dis, là, j'ai envie d'y jouer. Ouais. Déjà, je peux te dire, du point de vue juste extérieur, ce qu'apporte ce kit, et ce kit, du coup, c'est que ça donne vraiment envie à des gens, tu vois, de découvrir cette mécanique sans subir éventuellement un univers qui leur parlerait pas. Là, juste, tu raccroches les wagons avec les fans de manga.
Juste pour répondre, du coup, et c'est vrai que j'ai oublié cet aspect-là, c'est que je kiffe Évangélion. Enfin, c'est un truc que j'ai adoré, que j'ai regardé plein de fois. J'ai trouvé que ça matchait bien, on va dire, et que du coup, c'était possible de le faire. Que c'était l'occasion aussi de faire un truc fun, fun dans le drama, mais fun, quoi. Enfin, voilà.
Sais-tu que Hideo Kojima a travaillé aussi sur un projet Evangelion Online qui s'appelle Zone of the Ender, dont il a sorti deux opus sur PlayStation.
Oui, donc on parle souvent, lui et moi, de designer à designer.
Et donc, moi, je suis beaucoup plus proche pour le coup, d'Hideo Kojima. Evangelion, j'ai trouvé ça trop froid, j'ai découvert peut-être un peu tard par rapport à. Mais alors, et moi, ça me donne vraiment. J'ai vraiment ressenti du Zone of the Ender dans ce que vous racontiez. Et moi, ça me donne vraiment, pour le coup, là, vraiment envie. Voilà. Valentin, tu voulais ajouter
quelque chose ? Oui, alors, c'est une remarque et une question pour Vivien. La remarque, c'était que le kit d'initiation qui existe déjà dans Libreté est un bijou de game design, dans le sens où on peut rentrer directement dans l'univers de Libreté. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de le tester. Mais moi, j'ai fait
du Maul
non, c'est
Forteresse des Nuées.
Ouais, je l'ai joué.
Moi, j'ai fait peut-être 30 parties de ce jeu en convention pour présenter le jeu de rôle à des gens. Ouais.
Bah, cool.
Et tu te demandais pourquoi tu avais le droit d'aller dans les bureaux d'Hideo Kojima.
C'est vrai, il m'a dit.
Tu peux refaire ta réaction quand t'as appris que quelqu'un avait joué 30 fois ton jeu.
Cool.
Ouais. C'est tout. Ouais. Le flegme anglais, une fois de plus.
Vous voulez que je prenne de la bile noire pour signifier le.
En fait, la partie dure une heure et demie du kit d'initiation de Libreté, donc la forteresse des nuées. Et c'est un outil déjà pour découvrir le jeu de rôle et pour découvrir Libreté, qui est, moi, je trouve le meilleur. C'est pour ça que j'y ai autant joué, en fait. Et donc, un kit d'initiation pour de bile et d'acier me semble être une idée super. En plus, le canon esthétique est encore et plus proche d'un public plus geek, on va dire.
Ouais.
voilà. Donc ça, c'était le premier point. Je trouve vraiment très très bien cette idée de kit d'initiation, c'est super. Deuxième question, à quel point est-ce que le supplément nécessitera le livre de base de Libreté? Ou est-ce que ça pourra être potentiellement un objet indépendant, quoi?
Et le prix, du coup?
Moi, je m'en fous, je l'ai dit.
Alors, le prix, c'est un peu tôt pour en juger, du coup.
D'adère.
Pour l'instant, il est clairement conçu comme un supplément. Pour quelque part aussi redonner du souffle à la gamme, quoi, au jeu lui-même, c'est une solution aussi. Du coup, ça fait un peu marchand. Mais c'est vrai, oui, c'est.
T'es toujours en collaboration avec Sico pour.
En tout cas, pour tout ce qui va toucher à Libreté, à moins d'un drame, est prévu pour être sorti sous ce mode-là, parce que je trouverais ça un peu absurde quelque part de prendre des moyens, enfin des biais différents, voilà. Je pense pas qu'après, pour d'autres jeux, enfin, ce sera à renégocier.
Le contrat
à voir.
Que tu as avec lui ne t'y oblige pas.
Non, pas
c'est
du
un
tout.
Choix que tu fais.
Oui, tout à fait. Oui, l'univers m'appartient. Il y a que les livres que je lui confie pour 2 ans, je crois. Et
très bien.
Je peux pas lui dire non, tu vends plus de Libreté.
Est-ce que tu vas faire la même erreur que Romaric Briand et promettre à l'avance un certain nombre d'extensions, genre une exalogie Libreté ou.
Non.
Ce n'est pas une erreur, voyons, c'est du talent.
c'est...
Tout était prévu à l'avance, exactement, comme le
souffle Fabien. On fera les choses à notre rythme quand j'aurai des idées déjà. J'aimerais, ouais, on verra, il y aura peut-être d'autres trucs. Mais pour l'instant, c'est vraiment déjà sortir celui-là, ce sera bien.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme univers qui utilise des ados Parce que là, on a eu les ados Sa Majesté des Mouches, les ados Mecha.
Stage.
Non, mais il pourrait faire un Libreté Libreté à Poudlard,
un univers. Ouais.
Ouais.
Merci.
L'académie des enfants perdus.
Ah
non.
Oh, le public, si c'est pour souffler des choses pareilles.
C'est Ouais, c'est vrai, à part des magiciens, des mechas, je suis en train de chercher en direct, mais je sais pas ce qu'on pourrait faire.
Après, il me reste les parents qui viennent les chercher, les enfants qui sont rentrés, mais qui sont.
Dystopie, mais ça revient, c'est des mouches, type Hunger Games.
Oui, voilà, oui, oui.
Non, mais
oui.
Moi, je serais même pas surpris qu'un jour il y ait des adultes dans cet univers-là. Il y en a déjà, mais Fabien dans le.
Bah, dans celui-là, il y en a. Celui-là, voilà. Pas, mais dans celui-là, il y en a. C'est juste qu'ils sont. C'est des PNJ, quoi. Et ils sont aussi dysfonctionnels que les enfants.
Qu'est-ce qu'il y a, Natacha ?
C'est pas qu'ils sont dysfonctionnels, c'est qu'en fait, c'est eux qui foutent la merde. Enfin, je suis désolée, mais.
Pour moi, la leçon, du coup, c'est qu'en fait, les adultes, c'est juste des ados avec quelques années de plus, quoi. Non, mais moi, je déteste l'expression on est entre adultes responsables.
C'est tellement vrai.
Parce que souvent, et ça, on l'a aussi dans le GN, souvent, genre, non, mais dès que tu parles de oui, il faut faire attention, il faut mettre des techniques pour que les gens prennent soin les uns des autres et encourager la bienveillance. Non, mais c'est bon, les gens, ils peuvent prendre soin les uns des autres. Chacun peut prendre soin de soi, on est entre adultes responsables. Et je demande aux gens, ah bon, t'as eu un clip magique le jour où t'as eu 18 ans qui s'est enclenché dans ton cerveau et qui t'a permis d'un coup d'être conscient de tes émotions internes et d'être capable de te gérer.
Remercions Valérie Giscard d'Estaing d'avoir fait de nous des êtres responsables à 18 et non plus à 21 ans.
Ça me fait marrer ce truc-là de les gens sont des adultes responsables, ça veut rien dire. Ok, ils sont responsables de légalement, mais les gens sont mauvais pour prendre soin d'eux-mêmes. Et on peut l'apprendre via, pour moi, le jeu aussi, une méthode pour ça. Je trouve que Libreté, il t'apprend aussi ça, genre en mettant en scène des trucs dysfonctionnels de si tu gardes les choses en toi et que tu les sortes pas, tu pourris de l'intérieur. Je suis désolé, c'est une leçon pour la vraie vie aussi. C'est comme ça que ça marche dans la vraie vie. Si tes émotions négatives, tu les gardes et tu leur laisses pas de place. Si tu t'attends juste de craquer pour les exprimer, tu vas juste détruire et pas construire, quoi.
Génial.
Et
Natacha.
Si tu manipules aussi les gens pour arriver à tes fins, il y a moyen qu'à un moment donné, ils ne soient pas très contents, tout simplement.
Excellent. Excellent. Valentin, quelque chose à ajouter ou on conclut ce podcast?
Moi, j'ai dit tout bien ce que j'avais à dire. Donc, je pense que merci Vivien.
Une chouette partie.
Merci Maxime. Ouais. Merci Natacha.
Moi, je suis juste curieux de est-ce qu'on arrivera au même truc sans le kit de préparation, mais on le fait. Parce que moi, c'est que je n'ai jamais fait dans Libreté.
Ah oui,
c'est une chronique.
J'ai jamais fait de chronique et j'ai jamais construit d'univers en collaboration. Parce que là, ce qui est ouf, c'est que moi, j'adore jouer sous contrainte. Et quand on me file des relations préétablies, je m'éclate. Mais créer moi-même les conflits ou les voir émerger dans une mini-campagne, je ne l'ai encore jamais fait. Ouais. Donc, petite limite que je peux dire aux gens, c'est que ça, moi, je ne peux pas m'exprimer là-dessus.
Mais alors déjà, si tu as un jeu qui te vend dedans un premier scénario avec des pré-tirés et que ça fonctionne déjà comme vous l'avez fait là, ça vaut déjà le coup, tu vois ce que je veux dire, même sans pas. Après, si la campagne, si elle marche, c'est un 100 fois plus. Mais quand on voit la pratique des gens par rapport au jeu de rôle, il y a beaucoup de gens aussi qui font du one shot, tu vois. Et donc déjà d'avoir un one shot qui fonctionne, c'est déjà génial, quoi.
Mais du coup, moi, c'est une vraie question que je me pose, c'est est-ce que, en fait, moi, je sais pas si je serais en capacité de créer des choses aussi intéressantes sans aucune contrainte de toute pièce. Je me pose la question.
Franchement, on avait commencé une campagne de Libreté. Il y avait quand même des trucs, quoi.
On fait une campagne de Cthulhu ensemble. Le système fait zéro drama, on y arrive.
Non, mais là, c'est vraiment pas. Une fois, je te jure que ce n'est pas du manque de confiance en moi. c'est vrai, je vous jure. C'est une vraie question. Moi, j'ai aussi comme théorie que la contrainte libère, et donc du coup.
Attention, parce que la création d'univers de ce genre de choses est elle-même sous contrainte, tu vois.
Oui.
C'est pas on crée l'univers, tu vois, qu'est-ce qu'on fait, je sais pas. Non, il y a un ensemble de questions précises à laquelle on essaie de répondre. Il y a une construction qui est conditionnée par les playbooks et par les enjeux en germe dans Libreté, méca, etc.
Je suis en train de me faire la réflexion que c'est beaucoup
les autres joueurs
bien sûr qui sont eux-mêmes
la réflexion que c'est beaucoup le cas sur les jeux de Fred par exemple, et du coup effectivement si le setup permet ça
quelque chose qui serait plutôt enclin à te rassurer, c'est le fait qu'il y a un mec en face de toi en chemise verte, la Valentin, qui a fait 30 parties du jeu et il vient encore de s'éclater sur sa 31e, tu vois, à minima, je dis.
Moi surtout le truc qui m'éclate plus, moi un truc qui me faisait peur dans Libreté et qui me fait pas peur ici, c'est que dans Libreté tu crées le lieu et ensuite les personnages ils arrivent dedans, genre ils sont pas forcément déjà intégrés et ils doivent s'intégrer, alors que là moi
maintenant Libreté tel qu'il, c'est justement pour ça qu'on crée le lieu ensemble, c'est pour que les personnages des joueurs soient déjà intégrés.
D'accord, moi j'avais joué que la forteresse des nuées, donc
la forteresse des nuées c'est un kit de démo, donc
ils arrivent,
on
à Libreté
débarque, mais c'est pour ça en fait, c'est pas uniquement par fainéantise que j'ai fait un questionnaire plutôt qu'un univers. c'est parce que ce que j'aimais pas dans la plupart des jeux, c'était que les joueurs sont censés connaître l'univers. Leurs personnages, en tout cas, sont censés le connaître, mais dans les faits, les joueurs le connaissent pas, c'est le MJ qui le connaît, et du coup, on crée des, enfin, tous les settings vampires, notamment, et tout ça, on sait jamais où foutre ces personnages. Là, c'est pour ça qu'on crée le truc ensemble, c'est pour que les joueurs et les personnages soient au même niveau, que le MJ presque, en fait. Et après, le MJ rajoute sa sauce
derrière. Les questions, c'est très bien, ça fait partie de ces contraintes libératrices, que j'attends.
Très très intéressant.
Voilà, et dans tous les cas, vu le cadre où nos personnages dans l'histoire sont les seuls à être capables de maîtriser les mécas, il y a vraiment un truc de l'ordre de nos personnages sont au centre.
Ouais.
Et moi je trouve ça
génial. Et il y a une vraie raison pour ça. Même si vous les faites chier, ils peuvent pas vous foutre complètement au trou tout de suite parce qu'ils ont besoin de vous pour piloter le truc. Donc si vous mettez aux arrêts, il faudra quand même qu'ils viennent vous chercher pour vous foutre dans le robot et vous dire maintenant il faut se battre quoi.
Qui est très adolescent aussi. Boude, il faut que vous veniez me chercher.
C'est ça. Et vous serez bien pas content quand j'aurai disparu. Vous serez bien triste.
On a eu cette discussion avec le personnage de Natacha qui dit elle vient pas manger avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas la chercher? Tu dis non, je vais bouder comme un adolescent sait le faire et en me disant que elle a qu'à venir me chercher et je lui dirai non. Même si elle vient me chercher, je lui dirai non alors qu'en fait j'ai envie qu'elle insiste.
Merci à tous encore une fois. À bientôt tout le monde. Portez-vous bien, et surtout jouez bien. À très bientôt.
Salut.
Hello.
Gulen Lagann.